Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. On continue de parler des régionales. Aujourd'hui, notre invité est Étienne Dubancher, membre de la liste Union Citoyenne, une liste alternative composée des mouvements Génération Avenir et C'est à nous, qui souhaite agir pour soutenir des initiatives innovantes et au sein de la société civile. Leur objectif, faire une politique pour les citoyens avec les citoyens. Bonsoir Étienne Dubancher.
Bonsoir.
Alors justement, on en parlait un petit peu avant cette interview, votre liste n'a pas envoyé une tête de liste, pourquoi ?
Alors nous avons fait ce choix donc, de ne pas envoyer la tête de liste pour la simple et bonne raison que nous fonctionnons sur un système collectif où chaque membre de la liste envoie un autre. Nous avons pour objectif aussi de dépersonnaliser un petit peu le politique, d'arrêter de mettre les ambitions personnelles, les égos, les personnalités trop en avant par rapport au projet politique. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux listes, de ces deux mouvements, pardon, Génération Citoyen et C'était à nous.
Génération Avenir.
Génération Avenir, pardon.
Je vous en prie. Génération Avenir, donc je vais commencer par le mouvement dont je suis issu. C'est une liste, à la base, c'était deux listes indépendantes, donc une liste de jeunes, des étudiants, des jeunes actifs ou en recherche d'emploi, qui ont fait le constat qu'il y avait aujourd'hui une forme de décrochage démocratique, un rejet en fait de l'offre politique traditionnelle. Et qui, notamment par son absence de renouvellement, et qui ont décidé, plutôt que de nous abstenir, comme le font tant d'autres jeunes, de nous engager pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, d'horizontalité, de transparence, de collaboration, de participation citoyenne. C'est à nous est un mouvement qui fédère plusieurs initiatives citoyennes, qui sont des initiatives soit issues des associations, soit des précédentes échéances électorales dans les quartiers. Et nous avons constaté que nos projets politiques étaient très similaires par hasard. Donc nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de nous rassembler, notamment parce que ça nous permettait de répondre à un enjeu très important de représentativité, qui est très important pour nous. Et donc en se rassemblant avec C'est à nous, nous avons pu obtenir une plus juste représentation de l'Île-de-France et des idées surtout différentes, des visions, des projets, bien qu'ils soient similaires, qui se retrouvent sur tous les points ou presque.
Alors pourquoi ne pas s'être engagé, vous particulièrement, dans un parti politique plus important ? Est-ce que la place de la jeunesse, elle n'est pas là aussi ?
Eh ben, écoutez, justement, non, la place de la jeunesse n'est pas forcément là, puisque donc moi j'ai ma propre sensibilité, j'avais l'intention d'aller faire campagne à l'origine pour un parti traditionnel, mais très rapidement, d'abord il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément dans le système partisan, je n'adhère pas massivement à non plus tout ce qui se passe dans un parti qui pourrait le plus représenter ma sensibilité, et il y a fort peu de place pour la jeunesse, hélas, dans les partis politiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un jeune et vouloir s'impliquer dans une campagne, nous allons juste distribuer des tracts, coller des affiches, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment défendre des idées et vivre la campagne dans son organisation, au cœur de la stratégie. C'était ce que j'ai trouvé dans cette liste.
Alors, vous faites un constat, celui que les citoyens ne sont plus intéressés par la politique, mais beaucoup d'invités en font ce même constat. Pour vous, c'est quoi la principale raison ? Qu'est-ce qui fait que les citoyens ne sont plus intéressés par la politique ?
Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a une forte défiance, une très très forte défiance, qui vient notamment de toutes les promesses de campagne non tenues, des scandales qui ont entaché la vie politique depuis des années. Et surtout, il y a donc ce problème de représentativité qui est essentiel, c'est-à-dire que quand on voit nos représentants politique aujourd'hui, ils sont à très grande majorité des hommes quinquagénaires, blancs, issus des classes dites supérieures. Donc la plupart des citoyens ne se disent pas qu'ils sont représentés par ces personnes-là, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas le même vécu. Donc ce que nous voulons faire aujourd'hui, pour que les gens se réintéressent à la politique, ils s'y intéressent en réalité, c'est juste qu'il y a une espèce de recul de citoyenneté en tant qu'elle est incarnée par le suffrage, parce qu'ils n'ont plus cette confiance. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est de laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent de s'exprimer sur les décisions politiques, pour pouvoir renouer ce lien de citoyenneté qui s'est effrité, hélas, avec le temps.
Alors avant de revenir sur vos propositions, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette reprise de campagne suite aux attentats du 13 novembre. Comment ça s'est passé, cette reprise de campagne, pour vous ?
Alors c'est vrai que ça a été très difficile, notamment parce que ces très dramatiques événements sont intervenus au moment où la dynamique était vraiment lancée, où donc nous venions de déposer la liste le lundi, donc nous avons tout interrompu. D'abord parce que nous étions sous le choc, nous avions besoin de prendre du recul, surtout pas réagir à chaud à ces événements. Ensuite, nous nous sommes vus, tout simplement, nous avons beaucoup parlé entre nous, on s'est appelé au téléphone, et on s'est dit que même si le cœur n'y était pas forcément, il fallait absolument reprendre cette campagne, notamment parce que c'est pour nous une des réponses à ces problèmes de terrorisme, c'est notre projet politique, c'est-à-dire une confiance renouvelée, un vivre ensemble promu, c'est-à-dire lutter contre l'exclusion, contre l'enclavement des territoires, contre toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui le vivre ensemble est mis à mal.
Alors on lit un peu partout ces derniers jours que la campagne se nationalise de plus en plus en se concentrant sur des questions de sécurité et d'union nationale. Vous, est-ce que vous pensez que c'est le cas et est-ce que c'est encore plus difficile pour vous du coup de faire campagne ?
La campagne, oui, est nationalisée, ça c'est clair, c'était déjà beaucoup le cas pendant les départementales. Les enjeux de sécurité sont très présents. Nous avons choisi de ne pas entrer dans la surenchère sécuritaire, notamment parce que le conseil régional, finalement, a assez peu de leviers à ce niveau-là. Et la lutte directe contre le terrorisme appartient à l'État. En revanche, nous pensons que nous pouvons agir sur ces causes. De toute façon, bien sûr que nous, notre projet, il est plus vaste que celui de la région, puisque la participation citoyenne, ça ne s'arrête pas aux frontières de l'Île-de-France. Mais pour l'instant, nous essayons de rester sur les enjeux locaux avec des revendications plus larges.
Comment vous faites justement pour aller à la rencontre des gens et quelles sont leurs réactions face à un parti qu'ils ne connaissent pas forcément ?
Donc pas un parti, hein, nous sommes juste une liste, un mouvement. Alors la réaction des gens, elle est très souvent positive. Donc nous avons fait plusieurs actions de terrain. Les deux principales, il y en a une qui a eu lieu à République, où nous avions placé une très grosse urne à côté de la statue, une urne en carton, où les gens étaient invités à venir déposer leurs idées, on allait à leur contact. Et les retours étaient très très bons, ils étaient intéressés par l'initiative. La dernière action la plus importante, dont vous allez pouvoir découvrir la vidéo ce soir, c'était une opération Free Hugs qu'on a faite à Beaubourg, et où donc on disait qu'on se bandait les yeux et on avait un panneau Free Hugs et les gens venaient nous faire des câlins. Ensuite on discutait avec eux et donc on leur expliquait que c'était donc pour renouer la confiance et ils étaient tous ou presque enthousiastes et on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit « D'habitude je ne vais pas voter, mais cette fois-ci je vais me lever et je vais aller voter ». Donc sur le terrain, les réactions sont très bonnes. Notre principal problème, bien sûr, c'est un problème financier qui fait que nous avons des difficultés à communiquer massivement nos propositions et notre vision.
Comment ça se passe justement l'organisation financière de la campagne ? Vous avez réussi à imprimer tous les bulletins, toutes les affiches ?
Alors non, hélas, puisque donc effectivement les bulletins sont à la charge des listes. Pour les grands partis nationaux, c'est très facile, ils disposent de grosses ressources de trésorerie. Nous, ce n'est pas le cas, donc nous avons tous un petit peu participé, nous avons sollicité nos proches, nous avons fait un appel aux dons. Disponible notamment sur notre site internet. C'est difficile, nous n'avons pas pu imprimer tous les bulletins. Nous allons en laisser environ entre 5 et 10 % selon les bureaux de vote. Et c'est vrai que voilà, on a des grosses difficultés effectivement pour pouvoir mener la campagne à égalité avec les partis traditionnels pour ces raisons.
Alors venons-en à vos propositions, l'emploi et la formation ressortent au premier plan. Votre idée, si j'ai bien compris, c'est de créer un service public régional de l'emploi. À quoi ça va servir ?
Eh bien, nous pensons que l'échelon régional est peut-être plus adapté que l'échelon national pour s'occuper du service public de l'emploi, parce que c'est donc plus proche d'abord des citoyens, des demandeurs d'emploi, et surtout plus proche de l'activité économique de la région. Donc voilà, nous pensons que ce serait une façon beaucoup plus efficace, en décentralisant ce service public de l'emploi, de permettre à tous d'obtenir un emploi.
Et concrètement, comment ça s'organiserait ? Ce serait des espèces d'ANPE
Oui, ce serait comme des pôles emploi, mais des agences régionales. En fait, donc ce serait en division régionale, mais en revanche, donc ce serait... Enfin, il y aura des bureaux comme c'est le cas actuellement, mais ce serait centralisé au niveau régional.
Ça ne créerait pas un déséquilibre par rapport aux autres régions, ça ?
Un déséquilibre par rapport aux autres... Mais justement, si nous avons cette proposition ne fait pas partie des compétences du conseil régional. On ne peut pas modifier le service public de l'emploi comme ça. C'est juste une revendication. C'est-à-dire que nous, on a certaines de nos revendications qui sont là pour dire un message qui serait plus large que celui du contexte régional. Donc nous ne pouvons pas le mettre en place, mais c'est une de nos revendications fortes.
En matière de transport, vous expliquez qu'il faut déplacer une partie des fonds du Grand Paris pour la rénovation des lignes existantes. Ça veut dire quoi que le Grand Paris, c'est une idée qu'il faut en partie abandonner ?
Non, ce n'est certainement pas une idée qu'il faut abandonner, c'est une idée très importante. En revanche, nous sommes très vigilants sur la dynamique, sur l'aspect social. Nous voulons défendre cette vision sociale du Grand Paris, qui est très peu présente dans les débats, surtout le Grand Paris des transports dont on entend parler. Et donc non, pas du tout, il ne faut pas abandonner l'idée du Grand Paris, mais on pense qu'il y a peut-être d'autres façons de l'aborder qui seraient plus profitables à tous.
C'est-à-dire, par exemple ?
Mais c'est-à-dire justement en ayant un vrai débat sur comment est-ce que le Grand Paris promeut le vivre ensemble, promeut l'emploi, la culture, toutes ces questions-là qui sont un petit peu délaissées. C'est étonnant, mais c'est vrai que les transports prennent presque tout le débat dans ce sujet.
Mais justement sur les transports, vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la région Île-de-France et pour le Grand Paris?
Alors, donc pour la région Île-de-France, une de nos mesures très fortes, ce serait la gratuité des transports pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Mmh. Ça, nous pensons que c'est absolument essentiel, notamment parce que ces personnes sont beaucoup concentrées sur les territoires périurbains, qui sont très difficiles, donc qui sont loin des bassins d'emploi. Et il faut leur permettre d'avoir le plus de mobilité possible pour avoir un accès à l'emploi. Nous voulons aussi mettre en place des services de bus sur les zones, pour renforcer les services de bus sur les zones les moins desservies, toujours dans cette même idée d'améliorer l'accès à l'emploi. Mais également, par exemple, développer les centres de télétravail qui permettraient de réduire le temps passé dans les transports, notamment pour ceux qui vivent le plus loin du centre et de Paris.
Valérie Pécresse, elle fait une proposition, et elle n'est pas la seule, hein, Claude Barthelone aussi, pardon, de rendre les transports en commun utilisables soit toute la nuit, soit toute la nuit le week-end. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une orientation que doit prendre le STIF, qui est géré par la région?
Oui, c'est une proposition qui est intéressante. Elle a fait débat au sein de notre liste, notamment. Mmh. Comme nous fonctionnons sur un modèle très horizontal, les circuits de validation sont parfois un petit peu lents. Mmh. Donc, elle ne s'est pas finalement trouvée dans le programme. Alors, en revanche, toute la nuit, c'est pas exactement possible parce que notamment il y a beaucoup de travaux qui se passent pendant la nuit, c'est pour ça aussi qu'on arrête les lignes. Mais en revanche, l'allongement de la durée des transports, c'est sûrement quelque chose de souhaitable, notamment pour les banlieusards qui peuvent ainsi rentrer chez eux après avoir passé la soirée sur Paris.
Question environnement, peut-être, vous, qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Comment améliorer la qualité de l'air en Île-de-France?
Alors, la mesure la plus importante sur l'environnement, parce que nous sommes très, très sensibles à cette question, ce serait de mettre en place un plan participatif de végétalisation de la région, comme on le voit déjà dans la ville de Paris. Un plan participatif, c'est-à-dire que donc, le conseil régional mettrait à disposition des citoyens une application sur laquelle ils pourront recenser les lieux qui peuvent accueillir de la végétation dans leur quartier, et ainsi mettre en place un plan de végétalisation qui viendrait donc de l'intelligence collective, qui est la ressource sur laquelle nous voulons nous appuyer pour mener une action publique efficace.
Alors, quel est votre objectif concrètement maintenant pour ce premier tour des élections régionales en termes de voix?
Alors, en termes de voix, donc là aujourd'hui un sondage est sorti, nous avons pu voir que nous étions crédités de 0,5% des intentions de vote, en sachant que la campagne a été interrompue au moment où elle devait partir le plus fort. En réalité, nous n'avons pas forcément vocation à faire un gros score, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de porter un message qui, à notre avis en tout cas, répond à une attente forte de la part des citoyens de pouvoir s'exprimer, donner leur avis. Donc c'est vraiment de promouvoir cette idée de participation citoyenne, de renouvellement de l'offre politique. Et ça, c'est si déjà nos responsables entendent ce message, eh bien, nous aurons gagné.
Quel est l'avenir de ce mouvement après les élections régionales?
Eh bien, ça fera l'objet de discussions entre nous, certainement. Il faut quand même savoir que c'est deux mouvements dans un mouvement. Est-ce que Génération Avenir poursuivra dans d'autres objectifs, peut-être, pour défendre la citoyenneté ou les initiatives démocratiques? Est-ce que nous travaillerons toujours avec CETA nous? Ça, nous ne le savons pas encore.
Vous êtes combien, du coup, à Génération Avenir?
Génération Avenir, c'est un petit peu difficile à dire, puisqu'il n'y a pas d'adhésion. Mmh. Il y a seulement des sympathisants, en réalité. Donc, nous sommes plus d'une centaine.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Étienne Dubancher, d'avoir été notre invité sur Radio Campus Paris.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Radio Campus Paris.